C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
J'en parlais en début d'émission. J'aborde souvent la question du temps d'écran chez les jeunes ces jours-ci. En chronique à la presse, ici à ce micro, c'est un sujet qui suscite de plus en plus de réflexions, d'interrogations, de craintes aussi. Pourquoi, vous et moi, les adultes, si on manipule des écrans, on passe du temps en ligne, ça peut avoir des effets, c'est vrai. Mais il y a de plus en plus de chercheurs qui se posent la question, quel effet ça a pour des enfants, moins de 18 ans, on est des enfants, de passer beaucoup, beaucoup de leur vie dans les réseaux sociaux, dans les écrans, alors que leurs cerveaux sont en formation. Et j'ai raconté l'anecdote là d'un de mes amis qui est père de deux enfants, qui avait une conversation avec la mère de ses enfants sur la difficulté, justement, à mettre des limites, sur le temps d'écran, parce que quand vous le faites, ben vous êtes un des seuls parents qui est en train de le faire et vos enfants se rebellent. Et là, il y a des gens qui m'écrivent, je suis comme une policière, comme mère, à toujours vérifier, à faire la négociatrice avec mes enfants. Je trouve ça difficile. Il me trouve trop exigeante. Quelqu'un d'autre qui m'écrit pour me dire c'est la guerre avec les enfants, à la maison pour policer comme ça le temps d'écran. Quelqu'un m'écrit je n'aurais jamais cru avoir cette conversation car mon garçon n'est âgé que de 7 ans et hier soir il m'a demandé à avoir un cellulaire. Ses amis en ont. Une autre personne qui m'écrit de l'aveu de ma fille de 12 ans, nous sommes les seuls parents à limiter le temps d'écran. Comment on peut réussir ce combat du contrôle des temps d'écran si 9 parents sur 10 laissent sans encadrement leurs enfants sur Internet? C'est une cause de santé publique. Justement, au bout du fil, Dr. Mélissa Généreux, médecin conseil, est une spécialiste de la santé publique. Elle est rattachée à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Dr. Généreux, bonjour.
Bonjour.
D'abord, qu'est-ce qu'on sait sur l'impact que les réseaux sociaux et les écrans, là, c'est à peu près la même chose, peuvent avoir sur des cerveaux en développement?
En fait, c'est de plus en plus documenté, vous l'avez bien dit. Puis moi, ce qui a frappé mon attention, c'est que oui, des chercheurs le documentent, mais c'est rendu qu'on a des sociétés savantes, des grandes organisations de santé publique comme le General Surgeon aux États-Unis en mai 2023, je crois, qui ont émis des grandes réserves sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Et c'est vraiment par deux voies. Il y a le mécanisme du temps d'écran. Donc, plus on est exposé, plus ça peut occasionner par différents mécanismes là, un impact sur le bien-être. Mais il y a aussi l'exposition à du contenu malsain qui, lui, peut être lié à la quantité de temps ou juste par malchance de tomber sur une mauvaise conversation, du mauvais contenu. Donc, les mécanismes sont multiples, mais chose certaine, tout le monde de plus en plus met de l'avant qu'on doit se poser plus de questions par rapport à ces impacts-là négatifs.
Est-ce que ça revient souvent dans vos constats sur le terrain, la difficulté que les parents ont à négocier avec leurs enfants pour le temps d'écran?
Ben, c'est pas dit expressément comme ça, mais on vient de faire, par exemple, un sondage auprès de 14 000 parents un peu partout au Québec. Puis on leur demandait leurs préoccupations sur l'argent, sur la réussite scolaire de leur enfant, plein de choses, leur santé psychologique. Et c'est vraiment le temps d'écran qui revenait. Donc oui, indirectement, les parents, si leur préoccupation numéro un est le temps d'écran, on peut penser que c'est parce qu'entre autres, ils voient bien, et je suis bien placée aussi pour en parler, là, moi-même étant parent, de voir à quel point ça fait partie, c'est un des environnements. Maintenant, l'environnement numérique fait partie d'un des environnements importants de nos jeunes. Ils ont comme une vie un peu parallèle là-dessus. Et nous aussi, d'ailleurs, il faut le mentionner. Mm-hmm. Donc, comment on gère tout ça, ça devient assez compliqué. Il n'y a pas de guide d'emploi là, qui vient pour les parents en ce moment à ce sujet-là.
Docteur Généreux, vous avez mené avec votre équipe de santé publique de l'Université de Sherbrooke des sondages à grande échelle. On parle de milliers de jeunes qui ont répondu sur quelques années. Et en 2023, en décortiquant les données, vous avez fait le constat qu'il y a peut-être un lien entre le temps passé, le nombre d'heures passées chaque jour dans les écrans, sur les réseaux sociaux, et certains paramètres de santé mentale.
Oui, oui, tout à fait. Ça, c'était sans équivoque. Bon, lequel cause lequel, ça, l'histoire le dit pas. Ça peut aller dans les deux sens, mais chose certaine, les jeunes qui passent plusieurs heures par jour devant leur écran, et tout particulièrement sur les réseaux sociaux, sont aussi des jeunes qui sont deux fois plus enclins à rapporter des troubles, en fait, des symptômes qui sont compatibles avec un trouble anxieux ou un trouble dépressif. Donc, il y a vraiment, là, ça passe du tout au double. Mais encore une fois, est-ce que les jeunes aussi qui ont d'abord peut-être un peu plus une tendance anxieuse vont plus facilement se réfugier derrière l'écran, derrière les réseaux sociaux parce que c'est moins anxiogène ou ça peut avoir l'air moins anxiogène à première vue d'aller socialiser en ligne plutôt qu'en personne. Donc ça, le lien peut aller dans les deux sens.
Est-ce que la science est claire? Est-ce qu'elle, par exemple, je vais prendre un exemple. Le tabac, on sait que le tabagisme va causer de plus grands nombres de cancers du poumon, par exemple. On le sait que c'est lié. Est-ce qu'on sait si l'utilisation très jeune du téléphone, des réseaux sociaux, va mener à des troubles d'anxiété? Est-ce que c'est aussi clair?
Non, c'est pas aussi clair. C'est, ben, premièrement, les réseaux sociaux, c'est tellement quelque chose d'évolutif. On a juste à plonger il y a peut-être 10 ans, 15 ans, on n'avait pas autant de plateformes qu'on a aujourd'hui. Les plateformes deviennent de plus en plus agiles avec leur stratégie de fidélisation. Donc, la multiplicité de toutes les plateformes, de toutes ces stratégies-là font en sorte que ça... Et, ben, je pense aussi que le contexte veut pas de la pandémie qui est venue accélérer le tout, la pression sociale, le fait que ça devient de plus en plus une norme que... Tu sais, je donne souvent l'exemple au restaurant, là, il y a 5-10 ans, on commandait pas en ouvrant notre cellulaire puis en scannant le menu, là, on se parlait, on regardait un bon vieux papier, puis on avait une discussion, puis on n'était pas tenté d'aller sur l'écran. Donc, le monde évolue tellement vite que moi, ce que je trouve difficile avec la littérature scientifique, c'est de se fier sur les études. Tu sais, une étude qui paraît aujourd'hui en 2024, c'est souvent avec des données qui ont été collectées en 2021, peut-être 2022, puis là, le temps qu'on analyse ça, qu'on écrive l'article, qu'on le soumette, qu'on le révise, qu'on le publie, il y a toujours un délai de 2-3 ans. Donc, moi, je pense que, et je suis pas toute seule à le penser, plusieurs organismes pensent que ça va trop vite et qu'on a déjà suffisamment d'évidence pour dire que la prudence est de mise.
Donc, si je résume, on n'a pas de preuve que c'est la cause des problèmes de santé mentale chez les jeunes qui sont en explosion, troubles d'anxiété, troubles dépressifs, etc. Mais on n'a pas de preuve que c'est pas ça non plus.
Ben, on n'a pas de preuve. Au niveau des mécanismes, au niveau du cerveau, par exemple, la surstimulation du circuit de la récompense, là, tu sais, dans le cerveau, quand on est exposé à quelque chose, puis que là, ça nous génère un sentiment positif, une sensation agréable, ben, ça redonne le goût de réêtre exposé à ça. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Ça, la surstimulation, c'est vraiment de plus en plus clair et net que ça a lieu. L'exposition du contenu malsain, l'image corporelle, la comparaison à l'autre, ça, c'est des phénomènes vraiment bien reconnus là, au niveau de la psychologie. Puis ceci dit, il y a plein de choses aussi positives qui peuvent venir avec les réseaux sociaux. Là. Je ne veux pas juste les diaboliser, mais est-ce qu'on a une quantification comme la cigarette va augmenter de X nombre de fois le risque de cancer? C'est plus complexe que ça, là, je dirais.
Il y a des questions à se poser par ailleurs sur l'utilisation de la technologie dans les écoles. On en a parlé, vous et moi, pour ma chronique de dimanche dans la presse. Là, dans les écoles, on a embrassé les iPads, le Wi-Fi, le tout au numérique. On arrête de prendre des notes à l'écrit, etc. Et on a fait ça sans trop se poser de questions. Pas juste au Québec, mais ailleurs aussi. Vous m'avez raconté une anecdote fantastique. Et j'aimerais ça que vous la racontiez aux gens qui nous écoutent. Vous avez visité une école un jour qui était justement toute numérique. Racontez ce qu'on vous a dit à propos de... Vous avez posé la question, est-ce que vous savez s'ils sont vraiment en train de vous écouter ou s'ils sont pas sur Facebook?
Ben c'est ça, c'est qu'on était très fiers de montrer dans cette école-là, ben puis c'est correct là, à l'époque, je pense que c'est sincère, mais de dire on est tellement high-tech, on est passé au numérique, donc nous, nos étudiants, il n'y a plus de papier, il n'y a plus de crayon, tout se fait en ligne, donc ils ont tous un iPad ou un portable, puis les exercices de mathématiques, par exemple, ils le font en ligne, puis avec le temps de réponse pour chaque question, on va savoir à quel point ils maîtrisent ou pas la matière, puis je dis, ben c'est super intéressant, mais comment vous allez faire pour savoir s'ils sont vraiment en ligne à faire ça versus aller sur les réseaux sociaux, par exemple, ben c'est facile. Moi, j'enseigne pas par en avant, j'enseigne en arrière de la classe. Moi, ce que je regarde, c'est l'écran des élèves. J'ai dit, c'était cute dans le sens, je pense que c'était sincère, c'était une fierté, mais moi, c'est là que je me suis dit, ouais, on n'a pas encore peut-être toutes les données, mais il me semble, ou je suis peut-être un peu vieux jeu, mais que le relationnel, le développement des compétences de regarder quelqu'un dans les yeux, de lire le non-verbal, d'avoir une communication dans le monde réel, c'est quand même assez important, c'est quelque chose qui s'acquiert justement pendant l'enfance, l'adolescence, donc ça m'apparaissait important de ne pas laisser quand même tout ça de côté pour tous les mérites que la technologie peut quand même aussi avoir de son côté.
Évidemment, et cette anecdote-là, docteur Généreux, je ne l'ai pas vue comme si vous lanciez la pierre à cette prof-là ou à cette école-là, mais plutôt que dans le milieu scolaire, ici comme ailleurs, on est allé à la va comme je te pousse. Là. On a improvisé en pensant que la technologie, c'était forcément bon.
Ben oui, je pense que c'est correct aussi. Ça a été vraiment présenté, c'est la révolution numérique, puis c'est bien correct, là. En fait, je pense qu'on est tous un peu tombés dans le piège. C'est pas juste un piège. Je pense quand même que notre société a beaucoup évolué. Mais ceci étant dit, ça m'apparaît aussi très sage aujourd'hui avec les nouveaux constats qu'on a. On voit que la santé mentale des jeunes est quand même source de préoccupation pour plusieurs. On est en droit de se demander qu'est-ce qui a tant changé, puis veut pas. La pandémie, elle peut pas avoir le dos si large que ça. Il y a quelque chose qui était déjà présent avant, et ce qui nous apparaît le plus clair, c'est la place du numérique, la perte des aptitudes sociales, l'isolement, la solitude, donc plusieurs facteurs qui semblent toujours tourner autour de l'écran, qui est venu prendre le précieux temps qu'on avait jadis à développer toutes sortes d'autres habiletés puis à se développer sainement comme adolescent.
Le sujet est absolument inépuisable. On va avoir l'occasion de s'en reparler. Merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.
À la prochaine. C'était Dr. Mélissa Généreux, spécialiste en santé publique rattachée à l'Université de Sherbrooke.
Patrick Lagacé en accéléré.
Tantôt, je vous parlais de ce sondage du CAA Québec là, qui va se poursuivre jusqu'au 23 avril, le sondage annuel où le CAA veut recenser les pires routes au Québec. Et j'ai un ami qui est chauffeur de limousine, il a son propre service de limousine, je le salue, Stanley, qui m'écrit « Christophe Colomb entre Jarry et Jean Talon ». Et quand j'y repense, je vous le dis, c'est épouvantable. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on n'est pas capable, année après année à Montréal, de j'allais dire réparer, mais disons sécuriser ce tronçon parce que il est quasiment dangereux. Il y en a plein. Écrivez-moi si vous en avez au 98-985. David Marcel et Marcel, pardon, est porte-parole de CA Québec. Monsieur Marcel, bonjour.
Oui, bonjour.
Bon, chaque année vous faites ça. Est-ce que qu'est-ce que vous recevez comme commentaire? Vous en recevez beaucoup?
On en reçoit beaucoup, là. C'est des milliers de votes qui rentrent à chaque année au pireroute.com. On invite tout le monde à venir voter là, pour établir les 10 pireroutes au Québec. C'est la 9e année qu'on revient avec ce triste palmarès, mais très attendu. Donc, on attend les votes avec grande impatience jusqu'au 23 avril.
Bon, parlez-moi du palmarès de 2023. Là. Est-ce qu'il y en avait un peu partout au Québec ou c'est dans certaines régions qu'on retrouve des routes qui sont épouvantables?
Il y a certaines régions qui sont plus populaires que d'autres là, dans ce palmarès-là. Là, je vous dis l'Outaouais, spécialement à Gatineau, beaucoup de routes là, qui sont dans ce palmarès. La rue Georges à Gatineau, le chemin Cook également. Plus tôt dans les autres années, il y a eu le boulevard de la Gap qui a été complètement repavé depuis. Donc, on espère que c'est un des effets concrets de notre campagne. Mais effectivement, on a la route 329 qui ressort souvent dans les Laurentides aussi. On a des routes au Saguenay-Lac-Saint-Jean également. C'est vraiment là, un peu partout en province.
OK, M. Marcil, à Montréal, c'est quoi les routes qui reviennent année après année comme étant les moins praticables?
Ah, je vous dirais, Notre-Dame-Est est très, très populaire une année après l'autre. Boulevard de l'Acadie, vous l'avez nommé, Christophe Colomb également revient chaque année. On a aussi le boulevard Saint-Laurent, mais souvent, ce qui se passe, oui, ces routes-là vont être populaires pour la région de Montréal, mais n'arrivent pas dans le top 10, malheureusement.
Donc, c'est Christophe Colomb, j'en parlais tantôt avant de vous présenter, M. Marcil. Quand vous mettez une voix comme ça dans votre palmarès annuel au CA Québec, est-ce que vous essayez de savoir pourquoi il y a des routes qui sont jamais réparées?
Nous, à chaque palmarès, donc chaque année, on fait le top 10, on écrit aux municipalités qui ont une route qui fait partie du top 10 pour leur dire, bon, ben voici, une de vos routes fait partie du top 10. Avez-vous un plan d'investissement qui s'en vient pour cette route-là? Qu'est-ce qui se passe? On a des nouvelles des municipalités. Elles sont au courant, bien souvent, que la route est en très mauvais état et nous font part, justement, de leur plan d'investissement ou, au contraire, si les municipalités en question n'ont pas les budgets nécessaires pour réparer les routes, mais c'est un levier supplémentaire quand il est temps de demander une subvention auprès du gouvernement. Donc, c'est très positif, le palmarès, quand même qui peut être considéré un peu péjoratif.
Oui, un petit peu, là, on ne recense pas des choses qui sont belles. Toujours plus fun de recenser des belles choses qui fonctionnent, mais il y a un effet dans le réel. Les autorités finissent par agir, quoi, sous la pression du palmarès annuel du CA.
Tout à fait. On a plusieurs beaux exemples concrets au courant là, des 9 années de campagne. Si je peux en nommer un qui est bien connu, le boulevard Gouin-Est à Montréal, qui a eu plusieurs millions en investissement. Donc, avant la campagne, on le voyait, c'était très endommagé, un peu dangereux même là aux infrastructures douteuses pour plusieurs usagers de la route, le piéton, cycliste, automobiliste. Mais après la campagne, on a vu plusieurs millions d'investissements, oui. On a complètement refait la route, on a ajouté une piste cyclable. C'est beaucoup plus sécuritaire parce que la vitesse a été abaissée également. Donc, on voit vraiment des effets concrets. Est-ce que c'est strictement dû à la campagne? Oh, peut-être. On aime le croire.
Monsieur Marcil, est-ce que ces routes en mauvais état, est-ce que c'est le résultat d'un manque d'entretien ou le fait qu'il y a plus de véhicules, qu'il y a de plus en plus de véhicules lourds, ça finit par avoir un impact?
On le sait, au Québec, on n'a pas un beau réseau routier. La moyenne d'âge des infrastructures, c'est 40 ans. On est pris un peu dans un cercle vicieux où les infrastructures ont manqué d'entretien. Et on est constamment en train de faire du rattrapage d'années de négligence. Le maintien du déficit, le désactif se creuse d'année après année. Et on est pris dans ce cycle vicieux, malheureusement. Donc, je vous dirais, le déficit est actuellement de 20 milliards sur 10 ans. On a prévu 30 milliards. Mais c'était pas assez, on continue tout le temps à rattraper. Donc, il faudrait vraiment faire de la prévention. Ça serait le mot d'ordre.
Mais comment on fait de la prévention?
Ben, en fait, ça serait d'agir avant que les routes soient endommagées. Présentement, on est beaucoup dans la réparation. On doit beaucoup réparer les nids de poules. On fait du colmatage, mais ça serait de refaire à neuf. Ça serait d'agir avant que les crevasses apparaissent, parce que bon, on a beaucoup de cycles de gel et de dégel. On est sensible pour l'apparition des nids de poules ici. Donc, l'aspect est vraiment dans le préventif.
OK. Là, les gens m'écrivent en direct, M. Marcil, là, dans la messagerie au 985. Il y a beaucoup d'exemples un peu partout dans la grande région de Montréal. Est-ce que vous avez identifié des tronçons qui sont carrément dangereux? Je pense aux motocyclistes, par exemple.
Ben rapidement, c'est certain, dès qu'il y a des nids de poules un peu partout là, dans les routes que j'ai nommées plus tôt, le Notre-Dame de l'Acadie, Christophe Colomb, c'est dangereux là, pour peu importe l'usager qu'on est là, de la route. Mais là, moi-même avoir identifié des tronçons, non, c'est pour ça qu'on demande de l'aide publique. Donc, des gens qui vous écrivent, je les invite à aller au peroute.com. Soumettre leur vote, parce qu'une péroute, c'est pas seulement quelque chose qui a des nids de poules, ça peut être aussi des infrastructures douteuses, du marquage sur l'asphalte qui est absent, ça peut être beaucoup de choses, une péroute.
OK, donc il y a combien de personnes qui ont voté l'année passée, vous m'avez dit?
On est entre les 10 000 et 15 000 en moyenne par année. L'an passé, on était à 8 000. Ça varie vraiment d'une année à l'autre.
Bon, ben parfait. Écoutez, on va vous envoyer des gens pour répondre au sondage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup.
À la prochaine. C'était David Marcil du CAA Québec. Si vous tapez, oubliez l'adresse Internet, là. Si vous tapez pire route au pluriel, vous allez tomber directement sur la page du sondage du CAA Québec. Allez remplir ça. Et là, vous êtes nombreux à m'écrire. Même des gens qui m'écrivent pour me dire, écoutez, c'est même dangereux en vélo. Et pour rouler en vélo à Montréal, c'est vrai. Il y a moins de nids de poules sur les pistes cyclables, c'est vrai. Mais quand il y en a, disons que ça peut être assez dangereux. Là, dans la région de Montréal, mon Dieu, vous êtes nombreux à m'écrire. Je vais essayer d'en faire une petite recension un peu plus tard à l'émission.
Patrick Lagacé en accéléré.
Ça s'appelle le syndrome de la Havane, du nom de problèmes de santé inexplicables subis dans la capitale de Cuba par des diplomates américains et canadiens sur quelques années. On parle de problèmes cérébraux, des problèmes qui apparaissent de façon absolument brutale et qui perdurent dans le temps. On se demandait ce qui causait ça. Et là, ces derniers jours, il y a un consortium de médias internationaux qui a enquêté. Et ce serait un coup des services secrets de la Russie, non pas des Cubains, comme on le pensait à l'origine, qui ciblerait des diplomates et des espions américains. Comment est-ce que des diplomates canadiens ont été ciblés? On ne le sait pas. Mais dans le cas de ces diplomates et espions russes, il n'y aurait pas de hasard, semble-t-il. On ciblerait des gens qui auraient travaillé dans le passé contre les intérêts de la Russie. Par exemple, lorsqu'il y a eu des mouvements pro-démocratiques en Ukraine. On va parler de tout ça avec le journaliste et chef des enquêtes de la presse, mon ami Vincent Larouche. Salut Vincent.
Oui, salut.
Vincent, va un peu plus loin. D'abord, explique c'est quoi le syndrome de la Havane.
Bon, il y a de très nombreux, des dizaines et des dizaines de diplomates américains et quelques Canadiens aussi, qui ont rapporté l'apparition soudaine pendant qu'ils étaient déployés dans des pays étrangers notamment principalement à Cuba, mais aussi ailleurs, l'apparition soudaine de maux de tête, bourdonnement d'oreilles, perte de mémoire, troubles de concentration, des vertiges, des nausées, des saignements de nez même pour certains. Et dans plusieurs cas, ces personnes-là ont rapporté que l'apparition des symptômes a suivi un gros bruit inhabituel, très fort, ou une sensation de pression qui a précédé l'apparition de tous ces symptômes-là. Et comme tu l'as dit, pour plusieurs, ça perdure dans le temps et depuis des années, ils cherchent à comprendre qu'est-ce qui a bien pu causer ce mal mystérieux.
OK. Explique aux gens là, les conclusions d'une enquête de médias internationaux, dont l'émission 60 Minutes de CBS, qui a été diffusée, publiée ces derniers jours et qui montre que ce qui s'est passé à La Havane, qui a ciblé des diplomates canadiens et américains, ça s'est passé ailleurs dans le monde et il y a bien souvent chez les gens qui ont été ciblés, là, un dénominateur commun.
Exact. Alors, cette enquête-là, qui est le fruit de plus d'un an de travail, il y a trois éléments principaux qui ressortent. Principalement, ils ont une entrevue d'abord du lieutenant-colonel de l'armée américaine qui avait été chargé du groupe de travail qui devait faire la lumière là-dessus. Et pour la première fois, il s'exprime publiquement, il va à la caméra et dit « Écoutez, moi, je suis convaincu, n'importe qui aurait eu accès à toute la preuve que j'ai vue serait convaincu aussi que c'est un coup des Russes. Il y a trop d'éléments qui pointent dans cette direction. » Il dit même « Si jamais éventuellement j'ai tort, je suis prêt à revenir à la télévision et manger ma cravate. » Il dit « Par contre, le gouvernement nous a mis un standard de preuve tellement élevé avant de désigner un responsable ou un coupable qu'on n'aurait jamais pu l'atteindre, mais tout pointait dans cette direction. » Et je vais revenir là-dessus plus tard, Patrick, parce que il y a des raisons pourquoi on met des standards très élevés, évidemment, avant de désigner un pays qui a un arsenal nucléaire comme étant responsable d'une attaque comme ça. Deuxième élément très fort, l'enquête des médias révèle qu'il y a des membres d'une unité du renseignement militaire russe, une unité qui a déjà fait les manchettes pour des actions clandestines en Europe et des tentatives d'assassinat, et des membres de cette unité-là ont été retracés. On a pu voir qu'ils étaient présents dans les villes où les symptômes sont apparus à plus d'une reprise et qu'ils ont quitté aussi peu après ces événements-là. Donc là, on a vraiment une série de coïncidences. Et bon, on a des nouveaux cas aussi qui sont apparus, puis on a des témoins qui s'est jamais exprimé auparavant de ces nouveaux cas qui disent avoir reconnu sur des photos des membres de cette unité russe du renseignement chargée des actions clandestines. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Et des membres, je conclue là-dessus, mais des membres de cette unité-là en Russie ont reçu des promotions et des récompenses pour des recherches menées sur des armes à énergie dirigée, donc des armements qui utilisaient les micro-ondes ou les ultrasons. Et on ne sait pas si c'est des armes qui fonctionnaient. Il y a des experts des armements qui disent « ça nous semble pas correspondre aux symptômes qui sont rapportés. On a des doutes que ça pourrait vraiment être ça. » Mais chose certaine, cette unité-là travaille sur le développement de ces systèmes-là.
Et le dénominateur commun de plusieurs des cibles américaines, des diplomates, des espions ciblés, c'est qu'ils ont travaillé, disons, à aider le mouvement pro-démocratie en Ukraine il y a une dizaine d'années.
Exact. Et puis, il y a des symptômes même qui seraient apparus chez des diplomates ou des agents américains qui étaient déployés en Ukraine dans ces années-là. On sait que c'était déjà un précurseur peut-être à la situation qu'on voit en Ukraine en ce moment. On sait aussi que c'est un terrain de rivalité entre les Américains et les Russes par pays interposé, si on veut, l'Ukraine. Et chose intéressante aussi, c'est peut-être ce qui était en train de se jouer aussi à La Havane lorsque les symptômes sont apparus chez d'autres diplomates, parce qu'à cette époque-là, il y avait un mouvement de détente ou de rapprochement un peu entre les Américains et Cuba. On sait que la Russie est pesante, si on veut, à Cuba, a une influence dans ce pays-là. Et suite à l'apparition du syndrome de La Havane, les Américains ont retiré une grosse partie de leur personnel diplomatique. Ça a freiné ce mouvement de rapprochement-là. Même effet sur le Canada, d'ailleurs, qui a retiré une grosse partie de son personnel diplomatique de Cuba après l'apparition des symptômes.
OK. Vincent, tu sais, on connaît, bon, les armes chimiques, les armes bactériologiques. Dans ce cas-ci, les symptômes qui sont décrits par les victimes, c'est d'une seconde à l'autre, tu le dis, bon, des fois, tu entends un bruit, mais tu deviens là absolument dans un état de mal-être. Tu as de mal à la tête, tu as des problèmes d'oreille, tu as des problèmes d'ouïe. C'est quoi l'arme utilisée par les Russes de façon alléguée là, qui cause ces problèmes cérébraux, ces problèmes neurologiques?
On ne le sait pas, et il y a vraiment toute une gamme de chercheurs dans toutes sortes de disciplines qui s'est penchée là-dessus. On a même étudié la possibilité que ce soit une espèce d'épisode d'hystérie collective ou de contagion où les gens se convainquent les uns et les autres que quelque chose est en train de se passer. Il y a des médecins qui ont relevé par contre que c'était des symptômes bien réels qui persistent dans le temps. Pas nécessairement, on s'entend pas à savoir s'il y a des dommages chez les victimes de façon permanente sur leur cerveau. Et on ne sait pas, Patrick, c'est important de le dire, quelle arme peut avoir causé ça. Les recherches de cette unité russe concernent l'utilisation d'armes à micro-ondes et à ultrasons. Mais il y a une experte qui était citée dans le Globe and Mail ce matin, une Américaine qui travaille sur ces systèmes d'armement précisément et qui dit, ben oui, il y a des recherches là-dessus, mais ça cause pas ce genre de symptômes que vous décrivez. Donc, je vois une inconsistance, dit-elle. Maintenant, c'est sûr que si on développe un nouveau système, il a peut-être des effets inconnus. Chose certaine, il y a des Canadiens qui sont affectés, mais ce qui est aussi très triste, leurs enfants et leurs familles ont été touchés aussi. Présentement, il y a un groupe de diplomates canadiens et leurs familles qui poursuivent Ottawa en dommages parce qu'ils disent qu'on a négligé leur sécurité. Et il y a des enfants là-dedans qui ont souffert de ces symptômes-là et qui, évidemment, n'avaient rien à voir dans n'importe quelle dispute géopolitique qui peut être derrière tout ça, là.
En terminant, Vincent Larouche, je comprends la rivalité entre les Russes et les Américains, mais pourquoi est-ce que des Canadiens auraient été ciblés, des diplomates canadiens auraient été ciblés par les Russes à Cuba?
C'est une grosse partie du mystère. Et puis, les Canadiens, dans leur poursuite, d'ailleurs, n'ont pas l'explication nécessairement et réclament des explications d'Ottawa, réclament des documents qui pourraient les aider à faire la lumière sur ce qui s'est passé. Par contre, il y a une proximité, on sait, entre le Canada et les États-Unis. Est-ce qu'ils se fréquentaient? Est-ce qu'ils étaient dans les mêmes lieux? Est-ce qu'ils étaient dans les mêmes activités, les mêmes rencontres? Ça peut être une piste d'explication, certainement. Mais ces gens-là réclament des réponses et ils reprochent d'ailleurs beaucoup au gouvernement canadien de ne pas les avoir tenus assez au courant des causes qui pourraient être soupçonnées et de l'évolution de l'enquête depuis déjà 2016.
C'est une histoire absolument fascinante. Merci beaucoup, Vincent.
Merci, on continue de le suivre.
À la prochaine. C'était Vincent Larouche, journaliste et chef des enquêtes à la presse.
Patrick Lagacé en accéléré.
Jour 179 de la guerre entre Israël et le Hamas. Et il y a quelques semaines, l'ONU a affirmé qu'on faisait face à une crise humanitaire sans précédent là-bas, dans la bande de Gaza. Les pourparlers pour un cessez-le-feu n'aboutissent pas. Quelle est la situation sur place? On parle avec Caroline Harvey-Blouin, infirmière clinicienne québécoise qui travaille pour Médecins sans frontières. On la joint à Rafah. Caroline, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. D'abord, peut-être nous raconter ce que vous avez vu sur place, ce que vous avez constaté depuis les deux semaines où vous êtes arrivé à Gaza.
Bien, c'est sûr que la situation est telle qu'on décrit dans les médias, là, c'est catastrophique. On rentre dans Rafah, c'est des tentes à l'infini, les gens sont entassés les uns sur les autres. Des écoles, on parle jusqu'à 30 000 personnes dans une école parfois, ça varie tout dépendant de la grandeur de l'école. Malgré tout, les gens réussissent à fonctionner, mais c'est plus le changement de contexte qui constamment incertain. Les gens bougent constamment. Juste dans les derniers jours, on a vu un mouvement de population de Rafah vers la côte. Rafah, c'est toute la partie sud de Gaza. Donc, il y a une partie qui est considérée un peu plus sécuritaire, qui s'appelle Al-Mawasi, qui est un peu plus sur la côte. Donc, déjà dans les deux derniers jours, avec les rumeurs d'incursion à Rafah, on voit vraiment déjà un gros mouvement de population qui se fait.
Mais il n'y a pas eu, pour l'instant, d'incursion de l'armée israélienne dans la région de Rafah.
Non, il y a des bombes à tous les jours, là. C'est sans arrêt. Mais à Rafah, non, ça reste quand même calme. C'est plus la région qui est à côté, qui s'appelle Khan Younis, qui est constamment là, encore bombardée tous les jours. Là.
Caroline Harvey-Blouin, vous avez travaillé dans des endroits pas faciles. Bangladesh, Congo, Éthiopie, Cameroun, Soudan du Sud, toujours pour Médecins sans frontières depuis 10 ans. La situation telle que vous la constatez à Gaza, est-ce qu'on part comment avec les autres endroit où vous avez été déployé pour Médecins sans frontières?
Je pense que c'est difficilement comparable. On parle d'un contexte qui, il y a 6 mois, était complètement différent. Les gens avaient une bonne qualité de vie. On parle d'un pays qui était développé. Présentement, tout le monde est à la rue. Tout le monde a tout perdu. On parle de personnes qui étaient aisées, qui sont maintenant dans des tentes en toile. C'est surtout la rapidité de la chose, la magnitude de la chose qui est surprenante, qui est ahurissante. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe en ce moment ici. Moi, je n'ai pas vu rien de tel dans d'autres contextes.
On dit qu'il y a beaucoup de Gazaouis qui souffrent de malnutrition. On a tous vu ces images d'enfants qui étaient à l'article de la mort, qui étaient rendus squelettiques. Qu'est-ce que vous constatez à Rafah en termes de besoins sanitaires, humanitaires?
Mais c'est sûr qu'à Rafah, c'est ici qu'il y a le plus d'acteurs humanitaires. C'est ici que le système continue quand même de fonctionner. Il y a des hôpitaux qui continuent à fonctionner. Rafah, qui est une région un peu plus touristique, un peu plus agricole, il y a encore de la nourriture sur le marché, malgré que les prix ont... C'est 7 fois le prix que ça coûtait avant. Mais ça fonctionne quand même un peu. Puis nous, on commence à avoir de la malnutrition qui augmente. C'est surtout la partie nord là, qu'on n'a pas du tout de visibilité sur ce qui se passe, qu'il n'y a aucun accès de possible, où il y a peu ou pas d'acteurs en ce moment là-bas qui sont capables d'aller là-bas. Fait que nous, on voit seulement la partie sud qui est la moins pire, mais on voit quand même une augmentation de la malnutrition depuis les derniers mois. C'est sans compter aussi, tu sais, on parle du prix de la nourriture, mais aussi de toutes les mineurs non accompagnés qui sont estimés à environ 17 000, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de moyens financiers. On s'enligne vers une famine.
Vous parlez de 17 000 orphelins. Comment ces enfants-là se débrouillent? Comment ils passent à travers les journées? Comment ils survivent?
C'est à dire, nous, on n'est pas un acteur de protection, mais c'est les plus vieux de la famille qui s'en occupent, les voisins, j'imagine. Nous, on en voit beaucoup là, des enfants dans la rue qui fouillent dans les poubelles, mais malheureusement, c'est ça, il n'y a pas assez d'acteurs pour prendre en charge ces enfants-là. C'est très difficile d'avoir une vue d'ensemble aussi sur ce qui se passe, parce que c'est tellement grand puis il y a tellement de problèmes que c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Il y a encore un contexte qui est en constant mouvement. Les gens sont partis de Gaza, se sont relocalisés dans le Middle Area, se sont relocalisés à nouveau dans le Khan Younis. Là, maintenant, ils sont à Rafah. Là, ils s'en vont plus vers la côte. Donc, c'est difficile aussi d'avoir une vue d'ensemble.
Caroline, vous êtes infirmière. À quoi ressemblent vos journées depuis les 2 semaines où vous êtes à Gaza?
Ici, je suis un titre de coordinatrice médicale des opérations. Donc, on a une équipe médicale qui est quand même assez restreinte. On a du personnel médical qui est incroyable, qui est super bien formé. Donc, ça facilite beaucoup, beaucoup la tâche sur le terrain. C'est difficile à décrire. On fait tellement de choses en même temps que c'est difficile à dire qu'est-ce qu'on fait dans une journée. Mmh. Mais on travaille avec toute cette clientèle-là au jour à jour. Dans une clinique, on peut avoir facilement 3 à 4 000 consultations par semaine. On supporte des activités de maternité où on parle de 60 accouchements par jour. Là. Parce que là, on se ramasse avec très, très peu d'hôpitaux qui sont fonctionnels. Donc, tous les hôpitaux, ça serait comme si tous les hôpitaux universitaires, on les fermait, puis on se retrouve avec une grande population dans un état de région. Donc, tous les hôpitaux sont complètement débordés, le personnel est épuisé, mais c'est frappant la résilience puis la force que ces personnes ont.
J'allais vous poser la question, qu'est-ce qui vous frappe chez les gens que vous soignez?
La résilience de la population au complet. Est-ce qu'il y a une différence? Tout le monde est dans la même situation. Tout le monde a perdu des proches, tout le monde a perdu tous leurs souvenirs, mais la vie continue à rouler malgré tout, ce qui est impressionnant. Par contre, si vraiment il y a une incursion dans Rafah, ce qui risque d'arriver, la situation est déjà catastrophique. Mais s'il y a vraiment une incursion dans Rafah, on parle de 1,3 million de personnes qui vont se retrouver dans un minuscule territoire avec aucun service hospitalier. Là, c'est vraiment catastrophique.
Vous m'avez beaucoup parlé des gens que vous avez côtoyés là-bas. Vous parlez de leur résilience. Vous n'êtes pas sans savoir, Caroline Harvey-Blouin, que lundi, il y a 7 travailleurs humanitaires d'un organisme qui s'appelle World Central Kitchen qui étaient en train de livrer de la nourriture à Gaza et qui ont été ciblés, Israël dit, de façon non intentionnelle par un missile. Et il y a eu 7 morts. Comment vous avez réagi en prenant connaissance de cette nouvelle?
C'est sûr que c'est un choc, je pense, pour tout le monde. On s'est réveillé ce matin, c'était la première nouvelle qu'on a reçue. Je pense qu'on s'accroche tous un peu au protocole de sécurité que chaque organisme a. On espère que ça ne nous arrivera pas. Il faut continuer ce qu'on fait ici. Il faut continuer à aider la population, mais c'est clairement un choc. Présentement, je pense que c'est encore en investigation à savoir exactement ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de détails, je pense qu'on n'a pas encore, mais c'est sûr que c'est inquiétant.
Caroline, vous pourriez pratiquer, disons, dans une sécurité pas mal plus grande au Québec. Qu'est-ce qui vous pousse comme ça à aller dans des points chauds de la planète pour Médecins sans frontières?
Une bonne question. Je ne sais pas. Non, parce que j'ai fait ça pendant 10 ans. J'aime ce travail-là. Je n'ai même pas hésité quand on m'a posé la question à dire oui. Je me sens privilégiée de pouvoir venir ici, de pouvoir venir donner... C'est un grain de sable, hein, ce qu'on fait comparativement à tous les besoins qu'il y a ici, mais c'est énorme ce qui se passe, puis je suis très heureuse d'être ici.
Faites attention à vous. Merci pour ce témoignage, Caroline. Je vous souhaite une bonne soirée là-bas.
Merci beaucoup. Bonne journée.
À la prochaine. C'était Caroline Harvey-Blouin. C'est une infirmière clinicienne québécoise. On l'a rejointe à Rafah, dans la bande de Gaza, et travaille pour Médecins sans frontières.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.